On va faire une interview utopie alors.
Je connais le terme d'utopie, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut...
Ça va être tout le débat de... pendant 3 jours.
101.1.
Alors, ah oui, on m'entend dans les tubes. Donc, bienvenue, vous êtes toujours... Non, malheureusement, on n'a pas de casque, donc on s'entend dans les retours parce que les micros sont à peu près bons, là, les LEM, et on ne devrait pas avoir trop de Larsen. Vous êtes toujours, bien sûr, sur le 101.1 qui diffuse en continu en ce moment depuis le festival Ce sera mieux demain. Et là, on voulait se réunir à quelques personnes pour parler un petit peu d'utopie, faire un petit retour là-dessus, en débattre, se dire ce qu'on en pense. Et pour cette invitation, on avait pensé à plusieurs personnes. J'ai rapidement pensé à Pierre-Jean Truchot. Donc, qui est professeur de philosophie, c'est ça, et chercheur associé à... c'est quoi le laboratoire à Poitiers?
Il a encore changé de nom, ça, je crois que ça s'appelle maintenant le Forelis.
D'accord.
Voilà.
On accueille aussi...
Bonjour.
Oui, bonjour. Et on accueille aussi donc Amandine Piernet, qui est artiste.
Bonjour.
Et qui nous parlera un petit peu de son actualité, parce que ça a à voir avec l'utopie. Voilà.
Oui, et puis plus largement d'art contemporain et utopie.
Voilà.
Voilà, si ça peut aller ensemble.
Et finalement, on accueille aussi Laetitia Perret, qui est maîtresse de conférences. Alors moi, on m'a dit en lettres, un peu sur les rapports de pouvoir dans les manuels scolaires.
Ouais, tu veux pas te... Non ? Ouais, donc, ouais, on peut dire ça, en fait, ça va bien avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'étais à la conférence gesticulée, donc ouais, les rapports de pouvoir à l'école, en fait, okay. En général, et spécifiquement autour de l'enseignement de la littérature, qui est quand même un gros enjeu de pouvoir, puisque c'est évidemment une des disciplines ultra légitimes et culturellement très marquées, quoi.
D'accord. Et alors, pour continuer, je vais peut-être... moi, j'avais préparé un petit texte. On a été quelques-uns à préparer des petites choses. Moi, je voulais commencer parce que ça permet un tout petit peu... Enfin, je sais pas, j'ai écrit un truc qui peut-être parler un petit peu de l'utopie, d'où ça vient, etc. Alors, moi, qu'est-ce que c'est que l'utopie? Le terme utopie, ça vient du livre d'un érudit et philosophe... philanthrope humaniste appelé Sir Thomas More. Ce livre s'appelait, alors attention, De Optimo Rei Republicae Statu Deque Nova Insula Utopia. Je l'ai peut-être très très mal prononcé, je n'ai pas fait de latin. Qui signifie de l'état des affaires publiques dans l'île d'Utopia. Encore une fois, on peut se dire, alors quoi? Pourquoi est-ce qu'un bouquin devient un symbole des rêves d'un monde meilleur concrétisé? Alors attendez, laissez-moi le temps un petit peu de vous expliquer. En fait, et c'est un peu toute l'idée de Thomas More, parce que c'était un malin. C'est que le tournant de la fin du Moyen-Âge, c'est aussi le moment où il y a les grandes traversées et les grands voyages, donc Amerigo Vespucci, Magellan, Christophe Colomb. En tout cas, ces nombreuses découvertes de terres inconnues et de nouveaux peuples attisent l'imaginaire collectif. L'imprimerie, elle, est mise au point par Gutenberg vers les années 1450. Cette invention, elle, permet une diffusion bien plus grande et une baisse des coûts des livres. Au tournant, par exemple, des années 1500, donc peu de temps avant le livre de Thomas More, qui sort en 1516, il y a plus de 200 imprimeries en Europe. Et donc, le récit de voyage, lui, qui permet une plus grande diffusion grâce à l'invention de Gutenberg, devient une forme qui est très populaire et qui génère beaucoup de fantasmes d'un ailleurs possible, de l'existence de contrées qui ne seraient pas encore découvertes, dans lesquelles les coutumes sociales de notre monde seraient bien différentes. Alors quand More, lui, est furieux des conditions de vie affreuses de certaines personnes dans l'Angleterre du XVIe siècle, notamment les anciens paysans, lui, quand il veut trouver un moyen de dénoncer ça, il le met dans la bouche d'un aventurier, notamment pour pouvoir faire à la fois une critique acerbe et un rêve d'un ailleurs. En faisant ça, lui, il joue de la mode des récits de voyage qui attirent les gens à rêver, à imaginer des ailleurs. Et tout le principe du livre de mort, c'est qu'il raconte en fait la rencontre lors d'un voyage avec Raphaël Itlaudé, qui serait un navigateur qui revient d'un pays extraordinaire appelé Utopie. Donc l'interlocuteur commence par une longue critique des rois d'Europe, comment ils gouvernent les sociétés d'une manière bien imparfaite. Il explique, en fait, de façon un peu plus précise, comment le commerce de la laine par les riches et les nantis exproprie des milliers de paysans sans terre qui finissent par mendier, voler et finir pendus. Il décrit ensuite, un peu comme un contrepoint, comment peut se dérouler la vie dans cette île d'Utopie. Le gouvernement de cette île a institué la stricte égalité entre les êtres. Tout le monde travaille à des tâches différentes et personne ne jouit d'un statut privilégié. Dans tous les cas, ce livre montre plus précisément comment l'existence de deux mondes antagonistes, le monde dur et imparfait du XVIe siècle, non pas que le nôtre soit des fois toujours mieux, et de l'autre, le rêve d'un autre monde égalitaire et juste. Ce livre, en fait, c'est simplement la coexistence dans l'espace du livre de la dénonciation cynique de la réalité et du rêve d'un ailleurs ou d'un lendemain plus beau. C'est un pamphlet et une éloge réunis dans un bouquin qui se donne les traits d'un récit de voyage à la frontière entre fiction et réalité. Dès le départ, on peut voir qu'en fait, Mort y pose l'utopie non pas comme un monde concrétisé, mais comme un entre-deux. Il appelle d'ailleurs cette terre Utopia. Topos, c'est le lieu, l'endroit, et U, qui est un préfixe privatif, c'est-à-dire le lieu qui n'existe nulle part. Après, il y a un peu un double sens, parce que Utopia, c'est aussi assez proche de Utopia, et le préfixe E, c'est le bonheur, donc ce serait à la fois le lieu nulle part et à la fois le lieu du bonheur. Ainsi, c'est encore un nom à double sens, qui place pas vraiment son livre que dans le fantasme. Mort, lui, nous montre plutôt qu'il est impensable d'atteindre cette société dans l'état de son époque. Après, bah, c'est justement, c'est un peu là qu'est tout le génie de Mort et de nombreux penseurs de cette époque, d'avoir senti en fait que ces développements permis par l'imprimerie, les transports, le commerce, créaient une interconnexion et un savoir sans précédent, et que ça ouvrait peut-être la possibilité d'un autre monde dont, par exemple, la découverte de l'Amérique pouvait être une sorte de concrétisation de fantasme. Ils ont un peu, je dirais, humé que par la fiction, on pouvait avoir un impact réel sur le monde. Bah ouais, parce que tout le truc de Mort, c'est que son histoire, sa rêverie, a eu un impact. Le livre connaît un succès bien au-delà de ce qu'il pensait. De nombreux auteurs reprennent cette force, cette forme, pour chercher à faire voir leurs rêves, leur monde parfait. Par exemple, il y a l'abbaye de Thélème de Rabelais, dans laquelle les gens, il dit, les gens bien nés. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sait pas vraiment. Répondent tous à une seule règle, qui est « Faille ce que voudra, fais ce que tu veux ». L'Eldorado, qui est dans le Candide de Voltaire, était une sorte de version grasse et riche de l'Utopia. Et finalement, enfin, pour en citer quelques-uns, hein, la Cité du Soleil de Tommaso Campanella, qui amène une vision égalitaire, scientifique, très stricte et assez proche des premiers rêves communistes de l'URSS. Parce qu'en fait, la liberté de ton que se permet Mort dans ce roman fera des émules. Tant que dureront les royaumes, les utopies se cacheront derrière la fable, l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais après les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, quand les choses commencent à changer et que les rêves commencent à devenir des plans pour les démocraties en construction, les philosophes politiques du XIXe siècle sont clairement des parents de l'utopie de Mort. Le socialisme, le communisme et l'anarchisme sont eux-mêmes des plans de société qui seraient plus justes, plus libres, plus égalitaires, dans laquelle tout le monde serait proche comme des frères. Cependant, entre-temps, il y a la pensée des Lumières qui passe par là. Et en un sens, avec la tradition rationaliste, les rêves, les singeries, les douces folies des humanistes qui rêvaient un monde meilleur et critiquaient la société de leur époque, deviennent comme des plans d'un monde qui doit naître, qu'il faut faire apparaître. L'espace entre rêve et réalité devient un lieu d'une société que le progrès va faire advenir, c'est sûr. Le rêve devient trop pressant et il faut détruire l'ancienne société pour faire advenir le neuf, le nouveau, la société parfaite à tout prix. Quand le rêve devient trop pressant, l'utopie se passe de se poser des questions sur elle-même, l'idéal devient idéologie et fomente les fascismes à venir. C'est de ce constat que l'utopie commence à devenir contre-utopie au tournant du 19e siècle, et le rêve d'un monde meilleur devient embrigadement généralisé. Ce qui était un espace entre deux dans l'utopie, une forme de rêve de tiers inclus qui gardait en lui les contradictions, devient une synthèse et aplanit toute différence. On rêve le triomphe d'une classe sur une autre, d'une race sur une autre, ou bien la liberté à tout prix, même si l'on doit en retourner à la loi de la jungle. Les dystopies des 19e et 20e ne sont que là pour nous prévenir que de vouloir faire entrer rationnellement les rêves utopiques dans la réalité quotidienne crée son envers dans le pire. Les rêves communistes ont donné les horreurs de l'URSS, les pensées socialistes utilisées par les nazis. Voilà. Je me perds. Lorsque le collectif se forge un seul problème et une seule solution pour tous les défis de notre époque, l'envers fasciste de l'utopie pointe le bout de son nez. Pour revenir un peu et conclure sur quelque chose de plus léger, moi c'était peut-être juste un message pour les saxifragas, tous les amis. Dans la beauté que vous créez, ce qu'il y a, c'est que ça reste enfermé dans ces choses-là, c'est-à-dire que vous rêvez le monde de demain emprisonné dans celui d'aujourd'hui. Vous souhaitez rêver d'autre chose, un autre jour moins individuel, moins carnassier. Alors, plus particulièrement pour les copains à qui ce genre de festivals sont possibles à Angoulême, c'est une belle utopie que vous avez voulu rêver. C'est un beau projet que de trouver un lieu qui accueille tous les projets et tout le monde. Peu à peu, plein de gens se sont greffés à votre rêve et vous ont aidé à le concrétiser. Une vraie belle aventure collective s'est mise en place dans laquelle les rêves de chacun tentent de trouver une place dans la réalité quotidienne d'Angoulême. Et le lancement du Bêta, un vrai lieu pour laisser s'exprimer les envies créatives à Angoulême et l'aboutissement de cette belle aventure collective. Et c'est pour ça que je finirai en vous disant que la seule chose que j'ai à vous dire, c'est Mazel Tov. C'est-à-dire, j'espère que votre lieu est né sous une belle étoile. Et je pense qu'il ne restera si vous n'oubliez pas que votre belle étoile est aussi celle d'un rêve et pas que de la concrétisation. Parce que ce n'est que le début, en tout cas, moi, je vous le souhaite. Voilà, voilà. Alors, voilà. C'était un texte que j'ai écrit comme ça, je pensais pas qu'il serait aussi long. Mais j'espère ne pas avoir noyé les gens sous tout ça. Alors, je sais pas, je me disais que peut-être on pouvait commencer, je sais pas, Amandine, si toi t'avais envie de dire un petit peu pourquoi t'es venue ici, pourquoi tu. Enfin, qu'est-ce qui répond dans ton actualité un petit peu à ce qu'on dit là?
Ben, après, au niveau de l'actualité, ça c'est assez accessoire, mais c'était simplement pour y participer en tant que. Plasticienne, on a chacun un petit peu nos domaines de compétences, comme on dit. Et j'ai fait les beaux-arts à Angoulême, et du coup, au gré de mon parcours, j'ai pratiqué différents systèmes économiques, différents systèmes aussi relationnels au travers de l'art. Par exemple, tout ce qui est collectif d'artistes, atelier d'artistes, les activités gravitant autour de l'art contemporain aussi, comme le professorat, des interventions. Et c'est extrêmement enrichissant d'aborder l'art aussi par ce biais-là. Donc davantage en interaction avec d'autres partenaires. Et actuellement, je travaille sur un projet d'expo collectif qui a également point de départ la notion d'utopie et de revisiter l'esthétique et les envies, les événements des années 70.
Ok.
Donc en plus, ça tombe bien parce que c'est une période de l'art que j'apprécie énormément par sa sincérité et son côté expérimental, novateur. J'apprécie beaucoup le land art, l'art minimal, l'art conceptuel, contextuel. Et donc voilà l'exposition qui aura lieu à Tarnos, à côté de Bayonne,
ouais.
Aura lieu dans une ancienne église reconvertie en lieu culturel. Donc ça c'est bien aussi.
Ouais.
Et donc mélangera art plastique, musique, danse, performance, conférence. Donc voilà, dans une vision assez globale, assez éclatée mais croisée en fait,
okay.
Où chacun a sa place en fonction de ce qu'il fait, avec des images d'archives, etc. J'oublie sûrement encore des choses parce qu'il a vraiment envisagé ça de manière généreuse, donc François Lousteau, le commissaire.
Ouais.
Et ça, c'est le genre de manière de travailler, d'envisager une exposition collective qui m'intéresse beaucoup. Je fais un peu de commissariat à côté.
D'accord.
Donc ce sont des pratiques de créer des formes qui m'intéressent beaucoup. Et en matière d'art contemporain, j'ai essayé de penser deux, trois petites choses à dire. Ouais. Pourquoi j'aime beaucoup les années 70,
c'est que par exemple... Ça, par rapport à ça, justement, l'utopie, quelles sont les utopies là-dedans qui t'intéressent, qui te...
Mais il y a une exposition en 69 qui s'est intitulée Quand les attitudes deviennent formes, donc qui a été à la Kunsthalle de Berne, qui a été une exposition complètement incroyable avec plus de 70 artistes qui sont extrêmement connus maintenant, qu'ils étaient déjà un petit peu à l'époque, hein, ouais. Carl André, Sol Lewitt. Donc il a fait cohabiter quand même 70 artistes, principalement dans le land art, art minimal. Mmh. Il y avait José Boyce aussi. Et c'est une exposition qui est fondatrice et qui a marqué un tournant positif dans l'art, même avec le recul, imprègne encore l'art contemporain actuellement. Par exemple, ce sont des petites révolutions. Hein. Pour l'instant, ça paraît allant de soi maintenant. Mais pour l'époque, abandonner le socle, par exemple, rendre les œuvres, les faire communiquer davantage entre elles, c'était quasiment... En fait, c'est politique. Ce sont des manières de faire de l'art qui sont politiques. Et pourquoi j'aime deux mouvements en particulier, j'aime beaucoup l'art géométrique, parce que de cette époque-là en tout cas, puisque maintenant il est davantage décoratif, c'est qu'il avait pour vocation de rendre l'appareil à la société, entre guillemets, par la contrainte du regard, le forcer à aller dans une direction, le forcer à voir un cercle, un triangle, le forcer à suivre des lignes. Ça, c'était aussi, à mon sens, une manière de répondre aux contraintes d'une société sur un individu.
De détricoter un peu ce regard qu'on a, qui est toujours dirigé, toujours...
Oui, comme le corps dans une ville, dans l'espace. Oui. Et il y a un artiste qui est super, qui s'appelle Peter Halley, qui fait des grandes peintures fluo, géométriques. Et ces toiles, il les appelle des cells et c'est prison. Ce sont des cellules et des prisons, toutes ces toiles. Mais c'est de l'art géométrique et c'est agressif à l'œil, c'est quelque chose qui entre en résistance avec l'œil, sur lequel il ne peut pas glisser. Et je trouve ça très intéressant comme point de vue par rapport à la société qui est toujours actuelle. L'autre, c'est le land art, parce que sortir de la galerie, parce que questionner qu'est-ce que c'est que la vente, à quoi appartient l'œuvre d'art, et puis ce sont des gestes forts aussi. Et du coup, dans cette exposition de Quand les attitudes deviennent formes, qui a un titre merveilleux parce que ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. On fait de l'art comme on est, enfin idéalement.
Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans les années 60 et 70, c'est que les artistes se mettent à dire que leur attitude, des fois, a plus d'un. Enfin, leur attitude face au monde et surtout au quotidien, puisqu'il y a beaucoup cette chose qui traîne dans ces années-là, c'est que ces attitudes, elles deviennent presque plus importantes que la forme, leur attitude face au monde et face au monde de l'art, en fait.
Elles sont complètement liées. Qu'est-ce que j'avais... Oui, j'avais essayé de noter. D'ailleurs. Oui, c'est une personne a une manière d'être, une œuvre a une manière d'être. D'être là, d'être et d'avoir été faite. Et donc oui, on fait de l'art comme on est, en fonction d'une vision. Chaque artiste représente aussi l'art, quelque part. Il montre un exemple, en tout cas. Il est un exemple. Il ne le montre pas forcément. Mais... Et donc le principe, c'est d'être cohérent entre ce qu'on est, ce qu'on fait, avec qui et pourquoi. Du coup, ça forme carrément une sorte d'écologie, en fait. Parce que voilà, il y a une responsabilité à bosser avec un tel et pas un tel. Tout doit être... Voilà, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle.
D'accord.
Qui est très importante en art. Et donc là, j'ai choisi un petit extrait d'interview de Laurence Weiner pendant l'exposition « Quand les attitudes deviennent formes ». J'ai le téléphone est déjà donc il faut l'imaginer. Alors il est dans le musée, il est en train de travailler. Donc en l'occurrence il a une grosse barbe, des cheveux longs et tout. Il est en train de travailler avec une bonne grosse bière dans la main, une cigarette, et puis il est en train de faire une espèce d'anti-tableau. Donc il est en train d'enlever un pan de mur minutieusement, d'enlever le plâtre, en fait. Et sa vision de l'art et ce qu'il en dit, c'est juste, c'est merveilleux.
I'm sorry, what's your name?
Comment vous appelez-vous?
Laurence Weiner, W-E-I-N-E-R.
What are you Qu'essayez-vous de faire?
Just remove
de détacher le plâtre du mur.
The gypsum.
C'est tout. Oui, c'est tout. Et avec cela, qu'essayez-vous de faire? Faire de l'art. Et l'idée de détacher le plâtre du mur est très excitante. Ceci est peu important comparé à l'idée. Si je fais cette pièce à Amsterdam ou à New York, c'est exactement la même pièce. Même si elle a l'air un peu différente, que le mur est différent, c'est la même pièce. Je n'ai même pas besoin de la faire. Quelqu'un d'autre peut la faire à Amsterdam, je l'ai faite hors du musée. Et tout ce que j'ai montré, c'était un petit billet avec mon nom et le titre de ma pièce en anglais et en hollandais. C'est tout. Pas de photos. Pas de photos, pas de cartes, rien. Et ici, je vais enlever le plâtre du mur et mettre un billet sur lequel on lira 1 mètre sur 1 mètre enlevé du plâtre du mur. C'est tout. En allemand et en anglais. Mais l'idée de détacher du plâtre est très excitante. Et que cela en fasse quelque chose d'intéressant à regarder et supplémentaire. C'est comme une information de plus, c'est tout. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous besoin d'informations supplémentaires ? Vous n'avez pas besoin. Certains en ont besoin. Certains n'en veulent pas, mais en ont quand même besoin. Pourquoi avons-nous besoin d'art ? L'art est probablement la seule chose pour laquelle il n'y ait pas une raison vraie. Pas de raison, pas d'excuse. L'art est quelque chose que fait l'artiste, c'est tout. Est-ce que vous pensez vraiment que nous n'en avons pas besoin? Si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas à moi de vous dire que vous en avez besoin. Si vous en sentez le besoin, il est à vous. Je pense que l'art ne doit pas s'imposer, il doit être présenté. Et si vous pensez que vous le voulez, prenez-le. L'information est là. Si vous ne le voulez pas, je ne vais pas vous brutaliser ou vous convaincre. C'est suffisant pour moi de présenter le travail. Et c'est à vous de l'accepter ou de le rejeter. Mais c'est très différent de ce qui a été fait précédemment. Avant, nous pouvions emporter l'œuvre à la maison et la regarder. Ceci peut être fait chez vous et vous pouvez vivre avec. Vous pouvez aussi le garder en mémoire pour le reste de votre vie. Et où que vous alliez, vous pouvez la construire et la voir pour toute votre vie. Ce n'est pas un objet précieux et unique. C'est une idée unique, mais qui a 50, 60 ou des centaines de représentations. Et chaque fois, c'est nouveau. J'aime l'idée que vous ne pouvez pas assurer l'objet. Vous ne pouvez le perdre, vous ne pouvez l'abîmer, il est là pour toujours, rien ne peut lui arriver, et c'est tout.
That's fine.
Toujours sur le 101.1, et donc on vient d'entendre l'interview de Laurence Weiner, c'est ça ?
En 1969.
D'accord.
Une belle année.
Et ben on va peut-être, je sais pas, est-ce que tu avais encore quelque chose à dire dessus pour la...
Peut-être rappeler les dates de l'exposition.
Ah oui.
L'ancienne église de Tarbes.
Ah, ce sera du 21 septembre au 13 octobre. Voilà.
D'accord. On attend de voir ça. On avait aussi à notre table donc Laetitia. Oui. Est-ce qu'on t'entend? Oui, on t'entend.
On m'entend, c'est bon. J'y vais.
Oui.
Alors, en fait, moi, je suis là parce que quand Pierre m'a parlé d'utopie, j'ai dit, ouais, mais si tu peux pas parler d'utopie sans parler de dystopie. Bah parce voilà. Qu'en ce moment, on est, enfin, le succès fictionnel actuel, enfin, un des succès fictionnels actuels majeurs, c'est la dystopie. Donc, alors, la dystopie, c'est quoi? C'est, enfin, on le pense comme une opposition à l'utopie. C'est-à-dire, l'utopie, ça serait, on va dire, une littérature... un art qui caractériserait une période optimiste, alors que la dystopie serait un art qui caractériserait des périodes pessimistes, donc angoissées. Donc actuellement, on est beaucoup à être fans de dystopie, hein, j'en suis moi-même, et on a énormément, notamment de séries, par exemple, qui sont autour de la question de la dystopie. Et alors bon, du coup, c'est un peu difficile de se dire, mais j'adore les dystopies parce qu'en fait, je suis super angoissée par le monde actuel et je m'enfonce dans ma névrose d'angoisse à l'égard du monde actuel. Donc, ça ne sera pas mieux demain, en fait. Hein. C'est ça, la dystopie, c'est ça ne sera pas mieux demain. Je m'enfonce dans ma névrose actuelle je suis pétrifiée par l'angoisse de la période actuelle qui sera finalement elle-même dystopique. Et en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les dystopies qu'on regarde sont en réalité des histoires de résistance. C'est-à-dire que ce qui nous plaît, je pense, dans les dystopies, en tout cas celles que moi je connais, ce sont des histoires de résistance. Je vais prendre pour exemple une série qui est donc La Servante Écarlate, The Handmaid's Tale, qui a un succès absolument monumental actuellement, et qui est donc cette histoire pour... Alors, celles et ceux qui ne connaissent pas La Servante Écarlate ou qu'on connaît parfois avec son titre anglais The Handmaid's Tale, je vous invite d'abord, déjà en premier lieu, à ne pas regarder la série tout de suite, qui est excellente, mais vous commencez par lire le livre de Margaret Atwood, qui est sorti, je crois, en 1987, que moi j'ai lu cet été, et qui, en termes de récits dystopiques, est un chef-d'œuvre et c'est vraiment de la grande littérature. Donc vraiment, lisez-le et après regardez la série. Il vaut mieux lire le bouquin avant, pas pour des histoires de légitimité culturelle, que quand même c'est mieux les bouquins que les séries, c'est pas vrai, mais parce que en réalité, si vous ne connaissez pas l'histoire, la construction narrative du roman fait que vous comprenez en fait progressivement quel est le statut social de cette servante écarlate dans l'univers dystopique. Donc si vous avez vu la série, vous le savez tout de suite, c'est moins rigolo. Donc, The Handmaid's Tale, qui est donc pour vous, ça se passe dans un régime totalitaire, c'est caractérisé des dystopies. Une autre immense dystopie du XXe, c'est 1984, de George Orwell, qui a été écrit en 1948, qui est donc bien une dystopie, puisque c'est imaginer un univers dans un futur proche. The Handmaid's Tale, c'est la même chose. On est 40 ans après la période d'écriture, on est à peu près à l'époque contemporaine, en réalité, quand on lit... La Servante Écarlate maintenant. Et donc ce sont des histoires de résistance, à savoir dans cet univers totalitaire de La Servante écarlate, où les femmes sont complètement réduites à des instruments de travail ou à des instruments de reproduction, on a la résistance de ces femmes. Et donc, en fait, je pense que ce qui nous séduit dans la dystopie, enfin, en tout cas, ce qui me séduit et ce qui séduit souvent la dystopie, c'est les histoires de résistance. Mmh. Évidemment que 1984, George Orwell, est beaucoup plus désespérant, puisqu'on a une histoire de résistance qui est un échec absolu. Ouais. Donc là, on est sur un roman, une dystopie sur un totalitarisme qui est le totalitarisme stalinien, hein, historiquement situé. The Handmaid's Tale se finit d'une autre façon, là, on a une ouverture un peu différente. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui nous intéresse dans la dystopie. Et tous ceux qui disent la dystopie est un art de l'échec, un art du constat de l'échec, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est un constat de la résistance. Et là, par exemple, je viens d'écouter la magnifique conférence gesticulée, mais qui a été un moment extraordinaire. Et en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est pour revenir à cette histoire de « ça sera mieux demain », fondamentalement, la question, c'est la question de la résistance. Mm. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et après, j'ai un autre truc à dire sur la littérature, mais je ne sais pas si je continue ou pas.
Mais non, c'est pas ça. C'était juste, moi, j'avais... Et donc, ce que tu dis, c'est que ce serait un peu un ferment imaginaire de quelque chose qu'on voudrait tout doucement faire entrer dans le concret, qui, pour l'instant, reste un peu en potentiel dans toutes les séries qu'on regarde, etc. Mais qu'en fait, cet imaginaire, bah, comme on disait sur l'utopie, quoi, il est en train d'émerger et de vouloir prendre part dans le concret, quoi.
Bah, je pense que c'est, en tout cas... De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à la puissance de la fiction. Moi, je suis quelqu'un qui comprend le monde par la fiction littéraire et la fiction en général. Hein. Je suis une grande lectrice obsessionnelle et je suis quelqu'un qui regarde énormément de films et de séries. Et la puissance de la fiction fait que on peut se poser la question, non, mais regarder une dystopie, ça va nous plomber en fait. et non, parce que la dystopie est, je pense, effectivement un imaginaire du désastre, mais un imaginaire de la résistance à l'égard de ce désastre aussi. En fait, c'est la dystopie qui m'intéresse et celle qui marche fictionnellement. Hein. Enfin, celle qui te rapporte de la thune, en fait, parce qu'on est quand même dans un système de production, et quand même celle qui donne un peu l'idée que ce qui est beau, c'est de résister. Donc, ce qui est effectivement le plus intéressant, c'est quand je regarde ces fictions-là, je ne dois pas seulement regarder le désastre, par exemple, du régime totalitaire, je dois aussi regarder la résistance à ce régime totalitaire. Et par exemple, quand je pense actuellement à l'actualité de ce moment qui est terrifiante. Je veux dire, on a tous, enfin, tous les gens qui s'intéressent à l'actualité font, je pense, une rentrée sur le mode de la désespérance. On a l'Amazonie qui brûle, on a la Sibérie qui a brûlé, on a l'Afrique qui brûle, on a toutes les réformes qui sont en train de tomber chez nous, on a la politique de Trump, c'est absolument Bolsonaro, effrayant. Ouais. Et en fait, je réfléchis beaucoup à ça, je me pose la question, par exemple, de est-ce que j'arrête de regarder l'actualité ? Parce que là, pour le coup, je suis pas dans la fiction, je suis dans la réalité. Et honnêtement, je pense que le discours à l'égal, et c'est pour ça que c'est très bien ce qui se passe dans ce festival, le discours actuel, c'est un discours de, ne nions pas la peur, mais la résistance est une des caractéristiques de l'humain, en fait. Et effectivement, je pense qu'on est dans un, et là je repense à la conférence gesticulée, on est dans un système qui, en réalité, veut qu'on ne résiste pas. On est dans un système du fatalisme et du renvoi à l'individu de « c'est ton problème, c'est toi qui as un problème, si tu es dans la résistance, si tu es dans l'opposition, tu es juste l'emmerdeur, l'emmerdeuse de service. » Non, tu es dans la résistance et c'est ça qu'il faut absolument qu'on retrouve. Et des lieux comme ça sont des lieux où on retrouve ça.
Mais est-ce que justement dans cet état des lieux d'aujourd'hui, ces formes de divertissement et de dystopie, elles ne sont pas comme une sorte de ferment, de garder justement cette révolte dans l'imaginaire et de ne pas le faire ressortir, même si c'est ce qu'on voit avec l'utopie, en fait, ça finit toujours par prendre corps. C'est là qu'est tout la finesse de cette forme.
Alors, je pense que, en l'occurrence, ça va me permettre de faire la transition avec le chose qui m'intéresse, je pense que c'est aussi une question d'éducation. C'est-à-dire que si effectivement le discours ambiant et la dystopie, c'est un vrai problème, ça montre qu'on est super négatif, super pessimiste. En réalité, non, parce que si on déconstruit ce que sont ces histoires dystopiques qui font... Je veux dire, les histoires dystopiques qui rapportent de l'argent, ce sont celles qui sont quand même... qui donnent un espoir et qui donnent un espoir vis-à-vis de la résistance. Donc, je pense pas que... Et puis, je suis pas quelqu'un qui pense que la fiction, ou l'art en général d'ailleurs, que la fiction, ça soit quelque chose d'enfermé. La fiction, c'est pour eux. C'est-à-dire, les gens lisent, ça c'est les sociologues de la lecture qui le disent, on lit pas, enfin on peut lire pour uniquement se légitimer socialement en disant « ouais, la princesse de Clèves, c'est trop bien ». Non, en fait, c'est quelques personnes qui font ça, mais on lit pour comprendre le monde. On lit, et donc lire une dystopie de résistance, c'est aussi lire quelque chose qui va mais moi aussi je peux résister, et on est dans un système actuel qui est absolument terrifiant, parce qu'effectivement c'est la question de la résistance, elle est complètement périphérisée, alors qu'en fait ce festival montre qu'il y en a, et que quand on lit effectivement, parce que quand on lit les articles d'actualité terrifiants, ce qu'on lit aussi à côté, c'est des contre-propositions. Donc le problème qu'on a actuellement, c'est qu'effectivement la résistance, elle est criminalisée, clairement. C'est-à-dire que par exemple les ZAD, c'est de la résistance. Bon, c'est criminalisé, mais ça doit continuer. Et je pense que la résistance va passer dans la solidarité, à savoir que toutes ces formes de résistance, quelles qu'elles soient, doivent rencontrer la solidarité. Et ça, la fiction nous le montre aussi.
Ouais.
Donc c'est pas, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est enfermé dans un univers purement intellectuel de je lis un livre dystopique. Non, j'apprends en lisant, toujours j'apprends le monde en lisant en fait. Hein. Donc j'apprends que la résistance est quelque chose qui existe. Et pour le coup, la dystopie m'intéresse plus actuellement que l'utopie, parce que l'utopie, c'est pas des histoires de résistance. Alors qu'actuellement, je pense que du coup, la dystopie de résistance fait probablement des fictions qui peuvent nous apprendre le plus actuellement.
Mais justement, par rapport à ça, qu'est-ce que je pensais par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi... moi, en tout cas, j'ai un peu l'impression que beaucoup de gens regardent ça comme pour avoir l'impression d'avoir pour avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, mais en fait, le garder toujours en potentiel et pas en acte.
Ah oui, mais... Oui, mais ça, c'est pas la faute de la fiction.
Oui, c'est un peu la fiction. C'est la faute, peut être un entre-deux.
C'est la faute du système dans lequel on est, qui nous dit non, mais de toute façon, la résistance, c'est de la fiction. Mais la résistance, c'est pas de la fiction. La résistance,
la
elle est là. La résistance, elle existe. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes, c'est de la résistance. On en pense ce qu'on veut, mais c'en est. Les ZAD, c'est de la résistance. On en pense ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Les gens qui accueillent les migrants, qui vont jusqu'au procès, qui assument ça jusqu'au bout, c'est de la résistance.
Ouais.
Donc ça existe, c'est là.
Ouais.
Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut qu'on regarde. C'est vraiment, quand on le regarde comme quelque chose, pour le coup, la résistance serait l'utopie de la dystopie, ça, c'est le système qui veut qu'on pense ça. Mais c'est pas vrai. Regardez ce qui se passe autour de vous. En fait, nous-mêmes, au quotidien, on est dans la... par exemple, quand on est dans le monde du travail ou dans le monde de l'absence de travail, en fait, on est dans la résistance permanente à l'égard de ça. Parce qu'il y a un moment où c'est un moyen d'exister. Quand les gilets jaunes vous disent ce qu'on a compris, un des grands acquis de nous, gilets jaunes, c'est qu'on arrête l'isolement. On a rompu avec l'isolement.
C'est ça, c'est que d'un seul coup, les gens s'auto-organisent et ça marche.
On a rompu avec l'isolement. On parle entre nous. On est dans une société qui veut qu'on soit... C'est vraiment la base du néolibéralisme. C'est il n'y a pas de société, il n'y a que des individus.
Ouais.
Donc effectivement, on est isolé. On est responsable de son malheur, de son bonheur, de sa réussite. Ce n'est pas le système qui fait qu'on est malheureux, qu'on est heureux, qu'on a du boulot, qu'on n'en a pas, c'est de notre faute. Ça, c'est un des énormes problèmes qu'on a actuellement. Et donc, toutes ces histoires de résistance nous montrent que la résistance, elle a du sens parce qu'elle est collective.
Ouais.
Et ça, c'est effectivement... si on arrive à se débarrasser mentalement de cette moulinette qu'on nous bassine depuis les années 80, on se rend compte qu'en réalité, si ces fictions-là nous racontent ce que l'on peut vivre au quotidien, et c'est en fait ce que l'on vit souvent au quotidien sans même s'autoriser à le penser.
Bah ouais. Un petit son. Vous êtes toujours sur le 101.1 et on est dans la continuité de cette émission sur l'utopie. Et justement, pour Laetitia, j'avais plus une question par rapport à ce qu'on disait là-dessus. Dans ce que tu fais, dans tes recherches, voilà, quel est un peu le lien avec ça sur les manuels scolaires? Je crois que tu voulais en parler un tout petit peu.
Ouais, donc moi je suis quelqu'un qui travaille sur l'enseignement de la littérature. Je suis ce qu'on appelle une didacticienne. Voilà. Et j'ai essayé de penser sur finalement, est-ce que dans mon travail de recherche, il y a une dimension utopique? On pourrait dire que oui, parce que la question que je me pose et que se posent les gens qui travaillent avec moi, c'est la question de est-ce qu'un autre enseignement de la littérature est possible pour faire aimer la littérature et pour éviter un des biais de l'école qui est que l'école, en plus, peut faire détester, enfin contribue souvent à faire détester la littérature. C'est-à-dire que ça, c'est les sociologues de la lecture qui le montrent. Un enfant qui aime lire, une fois qu'il est passé par la moulinette du lycée, aime plus trop ça. Donc ça, c'est quand même un gros problème, puisque c'est quand même un de nos objectifs.
C'est assez fou. Enfin, moi, je raconte souvent cette histoire-là, mais j'ai fait terminale scientifique, et quand on avait des cours de philosophie, aujourd'hui, ça me passionne, mais quand j'en avais, j'écoutais rien. Je me mettais au fond de la classe, et j'ouvrais le bouquin, et en fait, je lisais les grands thèmes, et à la fin, en fait, je rigolais en lisant les citations de Nietzsche dessus, parce qu'il prenait tout, il détruisait tout, et donc je restais au fond à rigoler des citations de Nietzsche, mais le reste, j'écoutais rien, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est effectivement, donc ça, là on parle de la philo, mais c'est le cas, et en plus c'est vraiment démontré. Les sociologues de la lecture montrent que, de toute façon, on lit, lire c'est très sociologiquement marqué, hein, c'est-à-dire que les filles lisent plus que les garçons, on lit plus dans évidemment les classes supérieures éduquées que dans les classes populaires, etc. C'est très très genré comme pratique, etc. Bon, ça on le sait. L'école devra avoir pour objectif de faire aimer la littérature, or elle le fait détester. Alors on peut se poser la question de pourquoi, et donc ça c'est une des choses sur lesquelles je réfléchis, les manuels m'aident à réfléchir dessus, puisque moi je travaille sur les manuels depuis le début du 19e, hein. Et donc je regarde finalement la fabrique de la culture scolaire. Ouais. Et donc pour expliquer un peu les schémas d'explication de pourquoi est-ce qu'on n'aime pas lire, pourquoi l'école contribue à ne pas aimer lire, en tout cas donne très rarement le goût de lire, assez rarement malheureusement, c'est la façon qu'on a de l'enseigner. Mmh. Et la façon qu'on a de l'enseigner, là on retrouve la question de la philo, c'est que en fait, la pratique scolaire de la lecture, c'est pas la pratique privée. C'est vraiment complètement séparé. Quand je lis à la maison, je lis pour m'évader, pour me faire plaisir, pour faire fonctionner mon imaginaire, pour comprendre le monde. Bon. Ouais. Quand je suis à l'école, je lis pour répondre aux questions du prof.
Ben ouais. Bon.
Et en fait, du coup, le discours sur la lecture scolaire, c'est il y a le discours enseignant qui est le discours valable sur ce que je lis, ce qui donne au bac, j'apprends par cœur ma fiche pour la recracher le jour du bac. Mais ce que moi, je pense du texte, on s'en fiche.
Oui.
Je vais dire autre chose. Donc on s'en fiche. Et donc la question c'est, on fait comment? Et en fait, ce qu'on appelle la didactique de la littérature, qui existe depuis 20 ans, elle dit, mais en fait, il faut retrouver au maximum ce qu'est le plaisir de la lecture quand je suis chez moi.
Ouais.
Et en fait, et un des plaisirs de la lecture, donc c'est l'imaginaire, etc., mais c'est aussi le plaisir du partage. J'aime en parler. Donc effectivement, c'est une communauté, les lecteurs c'est une communauté. Moi, un de mes immenses plaisirs, j'ai fait ça hier soir ici avec un pote par exemple, on s'est pris le chou sur le Lys dans la vallée, est-ce que Henriette c'est vraiment l'acato complètement coincé débile, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a des outils de déconstruction, sa situation de femme catholique du début du 19e, tout d'un coup comprend qu'elle aurait mieux fait de coucher avec Félix, et comme elle l'a pas fait, elle meurt. Parce qu'en plus, Félix, il est parti coucher avec Arabelle, qui est quand même un peu plus libérée. Et c'est ça la littérature. Enfin, je veux dire, moi qui suis une grande lectrice, quand je parle avec mes copains, copines, grands lecteurs, c'est ça, c'est comme ça qu'on lit. Et en fait, si on transfère ça à l'école, c'est à la place de j'écris pour faire des dissertes. La disserte, et l'explication de texte, c'est un rapport au texte de commentaire. Je commente, donc je suis obligée d'être dans la distance. L'école demande de la distance, ce qu'on peut comprendre, hein. On a besoin aussi de distance, mais l'école n'apprend pas l'immersion fictionnelle. La littérature, par exemple, c'est délirant, on ne fait pas d'écrits littéraires en classe, au collège ou au lycée. On n'en fait pas. Tu veux dire quelque chose ?
Mais est-ce que c'est pas intentionnel ? Enfin, il y a de transformer un plaisir en pas contrainte, mais de le placer sur un point de vue utilitaire.
Bien sûr.
Pour plus tard. Enfin, c'est une manière d'amener quelqu'un qui est encore assez pas libre de ses opinions, parce que bon, ça vient peut-être un peu plus tard, mais avec de la réflexion, mais de dire, de préparer, mais dans le mauvais sens du terme. Ce que vous allez faire ou ce que le plaisir, enfin cette espèce de remplacement et de préparation, hein, tout doit être utile ou tout doit être cadré ou tout doit être une obligation, enfin
oui, bien sûr,
particulier
comme, l'école de toute façon c'est un lieu d'évaluation, hein.
oui
donc à partir du moment où on évalue, en fait un des problèmes qu'on a c'est qu'à partir du moment où on évalue, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, l'école c'est un lieu d'évaluation, c'est à dire que l'école c'est pas débarrassé de la culture de l'évaluation, ce qu'on appelle la culture de l'évaluation. Déjà rien que le terme il fait peur, hein. Donc culture de l'évaluation, il faut évaluer, il faut absolument évaluer tout le temps, machin, etc. Donc quand je mets en place ce que proposent les didacticiens de la littérature, qui se met en place dans certaines écoles, qui est à la place de bosser la disserte, bosser le commentaire, apprendre un rapport très très normé, et un rapport, et puis c'est des questions de pouvoir aussi. Ce que tu dis, c'est que c'est une question de pouvoir, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de penser moi quelque chose sur ce texte parce que j'ai 13, 14, 15, 16 ans, je n'ai donc pas la culture nécessaire pour penser cette littérature, puisque je vais la penser avec mes outils de très jeune adolescent ou de jeune enfant d'ailleurs. C'est le maître qui a la parole de vérité sur... Alors, c'est pas vrai, en fait. Un gamin de 16 ans a une parole de vérité sur un texte qui est sa parole de vérité d'un jeune adolescent. Donc, c'est des questions de pouvoir, c'est des questions d'évaluation. Et évidemment, l'intérêt de la disserte et de l'explication de texte, c'est que c'est évaluable parce que c'est normé, parce qu'on va pouvoir dire le point, il est respecté, il n'est pas respecté, les citations, c'est comme si, c'est comme ça, j'ai bien relevé les connecteurs, blablabla. Ce que propose là, actuellement, la recherche, c'est de dire, on va faire des cercles, on va discuter, on va débattre. Ce que je vous disais sur Félix, sur le Lys dans la vallée, c'est-à-dire que moi j'ai vu des trucs en recherche dans des colloques absolument géniaux où on sort Titus et Bérénice, enfin donc Bérénice de Racine, a priori pas le texte le plus glamour pour des ados. Et gros débat sur Titus, c'est un salopard ou pas ? Parce que Titus il se barre en fait. Titus il se barre, il dit ouais non machin, Rome c'est quand même mieux que Bérénice. Ouais mais quand même je culpabilise un peu parce que Bérénice elle s'est un peu sacrifiée pour moi. Et débat sur, mais bon... Qu'est-ce que Titus, il fait quoi de cette histoire de tu dois devenir empereur et pour ça tu dois chasser Bérénice, il fait quoi, voilà. Et donc il y a un vrai débat autour de ça.
C'est la question de ramener le désir quoi dans la littérature aussi quoi. Comment les gens ont été justement tiraillés par leur désir, par des choses comme ça, et qu'en fait des choses qu'on vit tous quoi.
Et c'est ramener le désir et c'est ramener le débat. Parce qu'on ne débat pas en littérature à l'école. C'est ramener le débat, ce qu'on appelle le débat interprétatif, hein, c'est un truc qui est pensé par les didacticiens. C'est ramener le débat. C'est ramener le politique. L'école est un lieu qui refuse qu'elle est politique, alors qu'il n'y a pas plus politique que l'école. Dès qu'on a un changement de gouvernement, on a un changement de formation, on a un changement de programme, on réforme à tour de bras, on n'arrête pas. Moi, je fais ça depuis 17 ans, j'en suis à mon troisième nom de changement de structure. On ramène, parce que désir, débat, ça va ensemble. Voilà, ça va ensemble, c'est-à-dire que c'est un désir, c'est le désir de partager des points de vue différents. Et si on prend la dimension politique, ce que vous disent les Gilets jaunes, c'est qu'on a repris le goût du débat. Et j'ai lu un super article d'un sociologue hyper intéressant qui disait « Les Gilets jaunes, si ça se casse un peu la gueule, c'est parce qu'ils sont tellement contents de s'être retrouvés ensemble qu'ils ne veulent pas trop s'engueuler. » Donc on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Par exemple, ceux qui hésitent à rejoindre les Gilets jaunes, « Ouais, je ne vais pas y aller parce que quand même, dedans, il y a des gens qui ont des opinions politiques que je trouve insupportables. » Oui, mais vas-y, débat. Débat. Et la littérature, c'est ça. Je pense que fondamentalement, il n'y a pas de vie sans débat.
On va peut-être remettre un petit espace sonore et puis... toujours sur le 101.1, on continue cette exploration de divers espaces. Voilà, là on a entendu un petit espace, je pense que c'était pendant le FIBD, au spin-off, la musique et les gens qui dansent. Et on continue sur les espaces qu'on crée là, qu'on essaye de créer entre notre espace autour d'une table un peu plus circonscrit et ces espaces sonores qui renvoient à autre chose. Et on continue un petit peu sur l'utopie. Amandine, je crois que tu avais une réaction par rapport à ce que nous disait Laetitia, quoi.
Oh oui, parce que je crois qu'on est pas mal, peut-être de ma génération. Donc moi, j'ai 40 ans, donc c'est une génération que je considère être assez particulière parce qu'on a assisté à pas mal de changements très rapides, parfois un peu subis, et avec une mémoire aussi d'un avant, enfin de cassettes, de CD, enfin plein de choses en fait qui paraissent qui vont revenir, hein, mais une génération quand même assez particulière, beaucoup d'expérimentation aussi, voilà, en termes de société. Et c'est vrai que je fais peut-être partie des personnes qui sont un peu nostalgiques du futur. Autrement dit, j'assiste pas au futur tel que je l'avais envisagé. Mmh. Quand j'étais petite, ou bien non que les voitures voleraient, mais ça restait un espèce de... Et en fait, ça n'a pas du tout pris ce chemin-là. Je vois le décalage entre l'idée que je me faisais du futur, ou en tout cas du temps présent, de cet actuel-là. Ouais. Et du coup, j'en étais venue à me dire à un moment, mais je vis dans une uchronie.
Bah ouais.
Quelque part. Et on est peut-être beaucoup en fait à penser qu'on vit dans une uchronie parce qu'il y a eu certains et peut-être certains événements qui ont conduit de manière nécessaire à ce que voilà ce qu'on vive actuellement, ce qu'on vit et aux événements qui se préparent aussi. Et bizarrement, ça m'a quelque part un peu soulagée. Parce que comme ce qui était dit précédemment, ça conduit autant l'uchronie que l'utopie. Ce qu'on disait avant, c'est que c'était plus des outils intellectuels ou des envies intellectuelles pour repenser des choses et continuer à les penser. Bah ouais. Continuer à penser tout court d'ailleurs. Donc plutôt que de s'accommoder des choses et puis de les subir progressivement. Et de rester en fait en mouvement intellectuel, en mouvement de devenir tel que Gérard Deleuze. donc de pas devenir figé. Dans son vocabulaire, figé, c'est être maudit. Donc ne plus devenir quelque chose. Et par là, c'est aussi un des moyens peut-être de l'utopie. C'est de poursuivre la progression, poursuivre à devenir quelque chose, constamment.
Est-ce que tu penses que justement il y a un peu cette question de devenir et de désir, justement dans ton travail, le fait de prendre corps un peu dans l'espace public, de...
Moi j'ai une vision moi-même de passage. Donc, dans les pièces que je fais, généralement, elles sont... je m'attarde beaucoup sur les choses, sur les endroits et les situations. J'ai pratiquement tout le temps un appareil photo sur moi. Et ensuite, ces endroits, ces expériences d'endroits, sachant que je cherche, je pense, au fond, le bon endroit, celui où je serai bien, en fait, où je serai moi, tout simplement. Mais cet endroit-là, il est en soi, c'est une manière d'être en fait, cet endroit-là. C'est pareil que l'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est une manière d'être. Face à une société, qui s'emploie à jouer en art plastique aussi, hein, le parallèle pour moi, il est toujours là, entre une société qui s'emploie continuellement à neutraliser par tous les moyens possibles. Ouais. Agressif ou bien par détournement, les formes, les idées, à se les approprier aussi, à se les assimiler. C'est assez rapide, ça peut être assez rapide pour qu'une société voit quelque chose qui le petit caillou dans la chaussure, ouais. Et trouve un moyen de l'absorber et de retourner ce caillou contre l'envoyeur entre guillemets. Donc il y a plein de petits mécanismes comme ça, un peu pervers, pour que les personnes, pour annuler les résistances, les formes de résistance, mais de manière soft, mais le méchant soft, cette espèce de chose un peu violente. Mais voilà, c'est oui, c'est des manières de pour moi de faire de l'art qui doivent être cohérentes avec ça en fait.
Et justement, bah, par rapport à ça, peut-être au fait de prendre un peu plus corps dans la réalité, je crois que Pierre, tu avais un petit texte sur l'utopie que toi tu as écrit aussi. Tu reviens un petit peu sur ce qui t'est.
Oui, c'est un texte d'humeur où il n'y a pas trop de. Finalement, s'il y a quand même aussi de la réflexion. Oui, la résistance. Enfin, on a beaucoup parlé de résistance et l'autre jour j'ai encore relu ça chez Deleuze qui citait Malraux. Mais je voudrais avoir ton avis là-dessus, toi qui est de plein pied dans le champ artistique. Toute œuvre d'art est une résistance et on peut ajouter est une résistance à la mort.
Moi j'aimerais apporter une petite subtilité en matière de création parce que déjà je dissocie l'œuvre d'art du produit. Bon, ça peut être assez cassant hein, comme jugement, mais en matière d'art, c'est vrai que le lissage et la neutralisation des formes et des propos est assez présent. Il faut qu'on suivre des tendances. L'institutionnalisation y a fait aussi beaucoup. Il y avait un texte qui s'appelle « La domestication de l'art ». Ou comment on peut neutraliser des propos, des choses qui sont très personnelles.
Les années 70, toutes les formes minimales qui sont devenues du design aujourd'hui, quoi, par
voilà,
exemple.
Oui, qui ont. Donc, il faut pas être radicaux. Donc, du coup, je distingue l'œuvre d'art, la création, l'acte de créer, de l'acte de produire. Même si, bon, produire, c'est pas. J'aime bien le fait que les choses produisent. Mais là, on peut être aussi dans l'art contemporain, plus au niveau du. De produire des objets visuels, mais qui ne sont pas des objets de pensée, en fait, qui sont des produits culturels, enfin, de divertissement, en fait. Certaines expositions que j'ai pu voir, parce que, il ne faut plus me la faire, je les vois plutôt comme des expositions de divertissement, de l'entertainment artistique, en fait.
Youpi.
Mais voilà, si la création, oui, est un acte de résistance... contre la mort. Bah. Je ne sais pas si c'est son but, mais je ne sais même pas si l'art a un but, en fait, ou s'il doit en avoir. Je pense que l'art a peut-être cet avantage-là, c'est qu'il n'a pas d'utilité ou il ne doit pas en avoir. En fait, il n'a pas de compte à rendre là-dessus.
Ouais. Oui, il y a... ça me semble important. Mais ça a à voir aussi avec l'utopie. Donc, l'art est fondamentalement inutile.
Oui.
Pour aller acheter ma baguette, j'ai pas besoin de connaître Stockhausen, de Titien, Rubens, Pierné.
Mais il est pas inutile, il est à utile.
Voilà, je peux rajouter tout de suite parce que c'est il est inutile, mais absolument vital pour
ouais.
ce.
Oui. Voilà. C'est ça.
Et qu'il y ait de la vie, on a beaucoup parlé de la vie.
Bah ouais.
La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Ça, c'est Bichat, mais on va élargir la physiologie. Ça me semble important de rappeler cela. Et Bergson disait, bon, lui, il parlait de la musique, il écoutait tous les jours de la musique, il jouait un petit peu, mais pas très bien, mais ça, c'est pas grave, il jouait.
Ouais.
C'est la formule est de Bergson, l'art est absolument inutile mais vital. Et il disait que c'est vrai qu'il y a pour des personnes, la musique c'est que du bruit. Bon, alors ils ont leur vie, elle est ce qu'elle est. Mais il n'en reste pas moins que pour le musicien, l'amateur de musique, là c'est vital.
Ouais.
Là c'est vital.
Oui. Oui, du coup, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là-dessus. Son inutilité, c'est aussi sa liberté. Ce que j'apprécie dans l'art et l'ambition peut-être qu'il doit porter, c'est celui de représenter une singularité qu'à chaque fois que tout le monde est très différent et doit l'être, enfin a une singularité et peut l'exprimer, mais en même temps sans que ça devienne exceptionnel. Personne n'est exceptionnel, mais tout le monde est singulier, et que l'art s'attache à cette subtilité dans les êtres, pour moi ça me semble assez important, comme peut-être comme vocation. C'est vraiment sans ambition, enfin en déconnectant avec les ambitions peu importe, c'est simplement montrer, donc être le plus sincère possible et le plus exigeant intellectuellement aussi, pour montrer ce qu'est un individu, peut-être.
Ouais, c'est cette question de, on va dire, d'une vision politique, justement, pas comme un rapport de force, mais comme un partage du sensible, quoi. Je crois que c'est Rancière qui parle de ça, et voilà, c'est là qu'est la question politique, en tout cas pour moi, de l'art, et qui fait que même si ça paraît inutile, c'est pas directement en résistance. En fait, il peut être quelque chose qui renouvelle notre vision sur le monde, continue, justement, on parlait de devenir, quoi, continue à je sais pas, à donner un moteur pour avancer, pour...
Il peut servir des causes, enfin pas servir à quelque chose, mais moi j'aime bien ouais, ça serait le mot à utile, qui se fiche de l'utilité en fait.
Mmh. Voilà.
Oui. Ouais.
C'est un bon néologisme.
Inutile. L'inutilité.
C'est rigolo.
Mais oui, voilà. C'est...
J'ai faim et soif.
Moi aussi.
Je sais pas si tu veux quoi dire.
T'as mis un espace.
Vous êtes toujours sur le 101.1 pendant le festival Ce sera mieux demain, et on continue avec ces espaces sonores. Et là, Pierre, tu voulais nous proposer déjà une petite pub pour
oui,
les gens ici.
Oui, deux réclames. Là, en ce moment, Antoine Hopman vient de commencer quelque chose qu'on pourrait nommer son tour de chant. Et donc, il va se balader avec sa petite carriole sur l'ensemble du site. On peut peut-être même un petit peu l'entendre là. Mmh. Et oui, la réclame aussi consiste parce que Antoine est peintre également, ouais. Chanteur, poète. Et tout à l'heure, après l'émission, il va lire, interpréter justement un texte sur la dystopie également.
Donc
il est dans l'actualité. La deuxième réclame, c'est la mienne, du coup. Après l'émission, et c'était, je vais, parce que donc je suis philosophe de formation et artiste, puisque je fais des collages depuis 6-7 ans maintenant, et dans le cadre de Ce sera mieux demain, donc tout à l'heure, je vais réaliser en direct un collage. Dans la nuit de jeudi, je suis allé chercher ma banque de données, j'ai décroché une multitude d'affiches et je vais avoir le plaisir d'en faire un là. Et il sera vendu à la Tombola avec donc les productions,
et bien surtout,
productions des autres artistes.
Surtout, je pense qu'il est intéressant, c'est venez voir quand tu le fais, venez à la Tombola pour...
Ouais, c'est complètement spectaculaire. Il ne se passe pas grand-chose, petit à petit on y arrive.
Bah oui, mais justement, c'est l'art qui se fait, quoi. C'est pas nécessairement un jeu spectaculaire, quoi, c'est ça?
Oui, c'est un petit enjeu pour moi. Enfin, j'ai pas de pression, parce que j'ai le droit de rater. C'est ça aussi qui est bien. C'est aussi une forme de résistance, le ratage. Et donc, dans cette perspective-là, j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire tranquillement, lentement. Je suis plutôt lent comme garçon. Donc, et je l'ai... Comment ?
On prend le temps.
Oui. Et voilà, c'était ma question, c'était ça. L'utopie en 2023. Je considère que c'est plus simple pour moi. Je suis en 2023. Bientôt, je vais faire une conférence qui va s'appeler « Pourquoi philosopher en 2023 ?» Parce que j'ai toujours du mal avec les dates. Donc 2019, ça me... On est en quoi d'ailleurs ? Je ne sais plus. Donc 2023. Donc, alors, le texte. L'utopie, c'est quand ? Ça, c'est le texte. L'utopie, c'est quand ? Ces deux dernières années, j'ai réalisé deux grands collages dont le thème était l'utopie. Pour voir. Deux grands tableaux sans peinture, c'est ainsi aussi que je nomme mes collages, des tableaux sans peinture, pour voir et penser l'utopie. Alors, comme c'est de la radio, je ne peux pas vous montrer ces collages, je peux vous inviter dans mon atelier, mais je peux dire quelques mots sur l'utopie. L'utopie est un vieux mot venant du grec, comme tu l'as dit, atopos. Cela signifie que l'utopie est vraiment de l'ordre de l'idée. Elle est ce qui n'a pas de lieu, ce qui n'existe sur aucune carte de géographie, sur aucun GPS, dans aucun espace. De même, cette idée désigne ce qui n'a pas encore existé, là c'est le temps, hein, et ce qui n'existe dans aucun livre d'histoire, donc dans le passé. L'utopie est peut-être née, et sûrement avec la philosophie. Dès l'origine, c'est un truc, ça, pour les philosophes, hein, une idée pour les philosophes, l'utopie. Alors Platon et sa République, je crois qu'on ne l'a pas évoqué. Saint Augustin et sa cité de Dieu, parfaite. Thomas More, bien sûr. Et puis Shakespeare, dans La Tempête. Bien sûr, il y en a d'autres. Et on va trouver ça aussi dans la peinture, Piero della Francesca. Mais je crois qu'à l'origine, c'est quelque chose pour des penseurs, des intellectuels. Et donc, lire l'utopie de Thomas More, sa cité, son état parfait, idéalement situé sur une île. Pas un hasard, ça, l'île, c'est quand même très important, l'île, comme chez Shakespeare. Et donc, sur cette île... où régnerait un état utopique, chacun, il y a ça aussi dans l'utopie, je crois qu'on ne l'a pas trop abordé, chacun, chacune connaîtrait le bonheur. Mm. C'est aussi la visée également chez Platon. C'est-à-dire penser à un monde meilleur pour qu'il y ait du bonheur. Alors vous voyez tous les problèmes que ça engendre. Est-ce que c'est dans une utopie où l'état là actuel en 2023, doit-il prendre en charge mon bonheur ? Là, il y a... Oula.
Bon. Ouais.
Bon. Mais ça fait partie de la réflexion de l'utopie. Bref, quand on réfléchit sur l'utopie, bah, ça occupe l'esprit, hein, ça préoccupe beaucoup l'imaginaire. Et c'est ça qui est dangereux, occuper l'imaginaire par l'utopie, et c'est ça qui est même chiant. toute utopie est une idée piégeuse. Pourquoi ? Parce que elle risque toujours d'être toujours dans la démesure, un excès dans l'irréel. Toute utopie éveille, favorise et fait travailler sans limite l'imaginaire. Bon, très bien. Mais pendant ce temps de la méditation utopique, eh bien, il y a quelque chose qui se nomme la réalité, le réel qui passe. Nous nous accommodons de la réalité, mieux nous la façonnons que si nous sommes dedans. L'utopie, alors, pourrait être ça, comme une drogue qui cherche des terres meilleures et illusoires, et pendant ce rêve éveillé, nous ne faisons plus rien, ou si peu. Plus rien, ou si peu. Donc, il me semble aujourd'hui que l'important n'est plus de penser une nouvelle utopie, encore moins de chercher à la réaliser demain. L'utopie comme idée parfaite, comme paradigme, comme modèle vers lequel nous devrions tendre est un leurre. L'important n'est pas utopique. L'important est à portée de main, de chacun, chacune. L'important est de faire. Le faire, faire, un faire humble, personnel ou collectif. Le faire des saxifragas, de la tricole. Et, à force de faire, on acquiert un savoir-faire qui vous confère une puissance. L'utopie ne passionne finalement que les gens qui ont en tête le pouvoir comme valeur. Le faire est pour les personnes qui cherchent à se doter d'une puissance, ne serait-ce que pour faire acte de résistance contre les pouvoirs. Voilà, on retombe tous, on est au cœur là, je pense, du sujet. Je peux même leur dire. Non mais je crois que l'utopie c'est une idée pour les tous ces philosophes politiques qui quand même sont intéressés par le pouvoir. C'est lié avec mon problème. Est-ce que l'État, là, aujourd'hui, doit prendre en charge mon bonheur ? Société de contrôle, on a parlé de ça aussi, Deleuze. La bienveillance, en philosophie, le dernier truc à la mode, c'est la philosophie du care. Voilà. La bienveillance... Bon, désolé, il y a des gens, autrui, voilà, j'ai aucune envie qu'ils soient bienveillants à mon égard. Mais aucune. Voilà.
Leur bienveillance, elle est particulière.
Voilà. Et donc on vient aussi à la résistance, n'est-ce pas ? Puissance, pouvoir, c'est pas du tout la même chose. Ça aussi, ça me semble très important. Et l'artiste, celui qui fait, celui qui est dans le faire, ou tous les gens qui ont un savoir-faire, même humble, savoir casser un mur en plâtre, c'est du faire, c'est du savoir-faire. Et on apprend comme ça, et bien ça te donne une certaine forme de puissance. Et l'acte de résistance, il est là, indépendamment de tout pouvoir. Donc oui, je crois vraiment que le faire, c'est un acte de joie, et l'utopie serait plutôt mortifère. Voilà. Ou bien la seule voie possible pour l'utopie est de la débarrasser de l'idée qu'elle porte. La débarrasser de l'idée que le meilleur, le bonheur, sont une finalité à atteindre, un ailleurs à conquérir. Alors ça donnerait ça, une utopie sans fin, sans idéal, sans point final à atteindre absolument, consiste à faire quelque chose chaque jour, mais quelque chose de singulier, comme disait, et encore humble, modeste, comme disait Amandine. Faire quelque chose chaque jour, afin de rendre le seul lendemain meilleur. Le seul lendemain meilleur. Donc une utopie au jour le jour, en quelque sorte, une utopie qui s'écrit chaque matin et se réactualise à chaque crépuscule. Donc ce serait ça une utopie pour moi qui ne renoncerait à aucun possible, qui forcerait l'imagination à se mettre au service du faire. Alors l'utopie ne commence pas demain, car demain ne sera pas mieux si nous ne faisons rien. L'utopie commence ou recommence là, dans l'instant présent.
Voilà. Non mais ouais bah c'est un peu on en reste sans voix, enfin moi je trouvais ça vraiment très très beau quand je l'ai lu déjà hier et en Merci. Plus c'est marrant en le réentendant là je repensais on parlait beaucoup d'art quoi, cette petite pratique tous les jours un petit peu ça peut être ça aussi quoi, cette chose qui est dans le faire qui est après c'est vrai que c'est marrant la première fois que j'ai dit je me suis dit, ah c'est un peu en opposition à ce que je dis, parce que j'étais plutôt dans le fait de dire ne pas perdre le rêve, mais en même temps, voilà, c'est peut-être, ça a peut-être à voir aussi avec la position de l'idiot. T'as pas mal écrit là-dessus, sur ce fait de faire et de pas être dans qu'est-ce que ce sera demain, qu'est-ce que... Peut-être le bonheur, il est là, il est dans un truc à faire maintenant. Je sais pas si tu... Parce que t'as écrit il y a quelques années L'art d'être idiot, donc...
Merci de le rappeler. La personne idiote et l'artiste idiot. Donc dans mon bouquin, j'ai trouvé beaucoup d'artistes qui ont choisi, c'est quoi l'idiotie finalement, des gens tellement intelligents qui ont choisi de ne plus prouver aux autres qu'ils le sont. Et qui justement par rapport à cette question de pouvoir,
la collapsologie.
Qui d'une certaine manière est une forme d'utopie négative.
Bah ouais.
Il y a plein de gens qui attendent, c'est pas forcément la fin du monde, mais un espèce de crush. Que ce soit en art, dans la vie, en discutant avec des amis, c'est vrai que attendre. En fait, il peut y avoir une espèce d'excitation à voir cette fin se produire et à l'attendre, pas forcément à la provoquer, mais parce que il y aura pas de c'est sans retour en fait. Et peut-être que les choses, soit elles peuvent se poursuivre dans la douceur, s'améliorer dans la douceur, ou soit elles vont, ce sera nécessaire, ça passera nécessairement par un jour J.
Ouais.
Qui est des années, peu importe du temps, mais cette espèce de collapse, c'est aussi très présent dans l'art en ce moment.
C'est toujours c'est ce que je voulais un petit peu dire dans ce texte-là, le souci, ou c'est la question, c'est toujours le risque de cette projection finalement dans un futur qui sera parfait, meilleur ou la destruction. C'est, je vois toujours le risque de rater l'instant présent et toute la fécondité qu'il peut y avoir à l'instant présent. Tu as évoqué Nietzsche, mon texte est truffé de références implicites, des gens qui me nourrissent. Mais c'est ça, le portique de Nietzsche, quand je dis c'est au crépuscule et à l'aube qui arrive. J'ai mon utopie de la journée, mais ce qui est déjà énorme, c'est déjà magnifique. L'instant présent, il peut se passer plein de choses. Mais si tu es dans la réaction, si tu es dans cette perspective de contrôle ou de maîtrise, et maîtriser le futur, je crois que c'est pas très sain. Tu rates quelque chose, tu risques de rater quelque chose, une potentialité. Et l'instant, ça peut être le temps de contempler un arbre. C'est complètement idiot de contempler un arbre.
Oui.
Mais je crois à nouveau c'est vital.
Oui. Moi j'en suis à l'expression ni remords ni regrets. Après moi j'ajoute ni espoir.
C'est très juste.
Mais pas dans une vocation. Ça a pas vocation à être négatif en fait. Cette fin là est pas du tout négative. C'est en termes de projection. En termes d'anticiper, de ce c'est un sang qui n'est pas un désespoir en fait, mais donc du coup ça se rapproche un petit peu du punk, je pense que le nos futurs est pas est toujours en fait d'actualité, il change légèrement de forme. C'est vrai que moi quand on me voit j'ai pas vraiment la tête, mais c'est des manières de vivre aussi, et puis de penser le présent, essayer de le repenser, le présent, le futur en fonction de son passé.
Spinoza était un punk.
Spinoza était un punk.
Ah oui, ça j'en suis persuadé. Pour sa manière de vivre, par rapport à ce que disait Amandine.
Tout à fait.
Bien sûr.
Parce que
Pour toutes les raisons qu'Amandine a évoquées.
D'accord.
Voilà.
C'est toute une ligne de conduite, ni remords.
Ouais, c'est ça, c'est que lui vivait dans cette chose-là, pas d'espoir.
Oui.
Ne pas faire de mal, ne pas louper les choses.
Voilà.
Et ne rien attendre.
Voilà, être aux aguets, l'acuité à l'instant présent, et la capacité d'improviser aussi, ou de bifurquer. Quand tu es dans un projet utopique, tu ne peux pas te permettre l'improvisation, tu peux pas te permettre une certaine forme de légèreté.
Un projet de réalisation utopique.
Oui.
Parce que moi, c'est là que j'allais revenir. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire pour moi, c'est plutôt Aerosmith Dream On, dans le sens où c'est Pour moi, c'est le moteur, en fait. Oui. Mais après, c'est que je passe mon temps à rêver à d'autres choses qui n'arriveront pas. Ouais, mais c'est que c'est le moteur de tous les jours.
Ouais. De tous les jours, voilà. Voilà. Et si nous rajoutons cette acuité à l'instant présent, la fécondité de l'instant présent, je veux pas absolument que nous soyons d'accord.
Bah non, de toute façon, mais...
Mais là, on a quelque chose, on a cerné quelque chose. Mm. Ouais, ouais. Mais les grands projets utopiques, tu as évoqué ouais. le RSS, le communisme fourvoyé, hein, tout de suite, ouais. immédiatement, même Lénine, c'est fichu d'avance, quoi. Bah, c'est fichu d'avance. Alors, nommons ça utopie, Laetitia a cité 1984, mais il y a de ça aussi dans cette utopie. Et on peut déjà l'apercevoir chez Platon, et Platon n'est pas fasciste, n'est pas communiste. Enfin, si, il y a quand même l'idée de... Mais j'aime beaucoup l'idée du communisme, qui peut être l'utopie au jour le jour. Un collectif.
Ouais. Eh ben, encore merci. Je sais pas. Je me dis, on va peut-être pas tarder à rendre l'antenne. Et donc, encore merci.
Rendons l'antenne.
D'être venu, Pierre et Amandine.
Avec grand plaisir.
Pardon ?
Avec grand plaisir.
Et merci pour l'invitation.
Et je rappelle juste peut-être deux trois petites choses. Donc, Amandine. Toi, tu vas avoir une exposition.
Oui, collective qui s'appelle du coup Topographique 6,
ouais.
Vers de nouveaux soleils.
Ok.
Donc à Tarnos, près de Bayonne, en septembre.
D'accord.
C'est presque de l'hétérotopie.
Voilà.
Quasiment.
Et Pierre-Jean Truchot, donc on rappelle ton livre L'art d'être idiot et
oui.
puis
aux éditions
dit,
de
gens de suivre un peu ton actualité disponible. Parce qu'on m'a dit qu'il y a un livre qui serait en préparation. Je sais pas,
oui,
je pense oui, qu'il oui. faut garder l'oreille ouverte. Et
oui,
les
mais
yeux.
J'ai oublié le titre. Puisque c'est sur l'oubli. Mais là, mon actualité, j'ai parlé de l'instant présent. Mmh. Voilà, là je vais boire une bière, je vais manger. Et après, je me mets dans le collage.
Voilà.
Et si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage. Marcel Duchamp.
Ah, magnifique.
Alors là, je vous félicite.
On remercie encore aussi Laetitia Perret, donc, qui était venue nous parler. Et puis, sur ce, je me dis qu'on va peut-être rendre l'antenne en vous laissant sur la belle ambiance qu'on a, juste remonter... Le micro ambiance pendant que
oui,
nous
oui.
on s'en va et qu'on laisse avec le chanteur qui est à côté. Je trouve que c'était assez beau sur aussi les espaces.
Et dites les gens venez
oui.
au Jardin Vert.
Venez au Jardin Vert, écoutez-nous sur le 101.1. Venez voir les collages de pierres
oui,
en
oui.
train de se faire ou au moment de les vendre. Et voilà, venez boire des bières, passer des bons moments avec nous et discuter aussi. Parce que si on vous a fait cette longue émission, c'était pour peut-être lancer quelque chose. Alors revenez en parler avec nous, quoi.
Voilà, ici il y a de la joie.
Voilà.
Demain, après-demain, après-après-demain.
En fait, ça va aller de mieux en mieux.
Ah, de vendredi à dimanche, ça va être crescendo à mon avis.
Et après ?
On verra.
La radio en continu sur 101.1.